Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Bunko, le podcast qui décortique la culture manga. Je suis Pedro et comme d'habitude, je suis entouré par mes deux camarades, Julien et Max. Salut Julien, comment ça va ?
Eh bien écoute, ça va très bien, surtout après avoir testé toutes les limites du système de Twitch et YouTube, auxquelles ils m'ont gentiment montré jusqu'où on pouvait aller. Et toi Pedro, comment tu vas ?
Ah oui, c'est vrai, parce que tu as été banni, hein. Tu veux pas le dire de manière explicite. Tu as été banni de YouTube pour, c'était quoi le terme exact employé ? Contenu sexuel gratifiant.
Voilà, exactement. Voilà. Un taille des années 80 censuré, apparemment, et trop excitant pour YouTube.
Il monte sa bite et il l'a fait payer. Et du coup, c'est pas passé pour
voilà,
YouTube.
Voilà, c'est bien fait pour toi. YouTube est une plateforme familiale, Julien. On n'est pas là pour voir et écouter des pervers s'exprimer sur les mangas.
J'aurais dû le mettre sur mon OnlyFans. Je pense que je me suis trompé de plateforme.
Donc voilà. Donc la chaîne de Julien existe toujours, hein, si jamais. Ça s'appelle la Capsule Manga 2.
Très original.
J'avais une théorie différente. Je pense pas que c'est le contenu sexuel gratifiant le problème. Je pense, Julien, que t'étais en train de percer beaucoup trop beaucoup trop vite.
C'est ça le problème.
Et YouTube a pas accepté que tu lui prennes sa thune. Et ils se sont dit, on va mettre le holà et on va supprimer la chaîne de Julien parce que moi, les gens comme ça, c'est pas possible.
J'avoue, c'est une bonne théorie. Elle me plaît, cette théorie, en tout cas.
Il n'y avait pas assez d'unboxing et de dégustation de snacks japonais. Et ça, YouTube était pas content.
De toute manière, c'est soit cette théorie-là, soit l'autre que je t'ai sorti tout à l'heure où tu montes ta bite et tu lui fais payer la photo.
C'était les deux, hein. Vous le savez pas. Hein.
Moi, je préfère celle-là, hein. Mais c'est mon avis.
Bonjour Max, je t'ai pas dit bonjour. Comment ça va ?
Bonjour. Ça va très bien, Je suis assez content de vous retrouver pour la saison 3 en ce début d'année fin mars.
Voilà. On prend notre temps pour commencer la saison.
On prend notre temps parce que on l'avait déjà dit dans le Winter Special, c'est on est très très occupé en ce moment et ça va pas en s'améliorant en fait. C'est tendu.
Moi je bosse 7 jours sur 7. Je suis au-dessus du burn-out en fait. J'ai même pas le temps pour ça. Mais bon.
T'as pas le temps pour être en burn-out quoi. Tu l'as regardé droit dans les yeux et tu lui as dit non.
Non, mais en réalité, on prépare aussi des épisodes qui vont arriver. Et pour cette saison 3 de Bunko, nous avons décidé de reprendre le format d'émission Flash que nous avions lancé l'année dernière, mais que nous avions quelque peu laissé à l'abandon. Les Flash, ce sont ces épisodes courts, moins d'une heure, en tout cas théoriquement, dans lesquels on revient sur un point d'actualité ou sur un sujet précis que l'on peut traiter de façon plus ou moins rapide. Et pour ce nouveau numéro Flash, on avait envie de vous parler un petit peu du marché US, c'est-à-dire du marché états-unien du manga. Au sein de Bunko, on lit régulièrement des mangas en anglais qui sortent sur ce marché. On a déjà eu l'occasion de vous en parler de temps en temps dans les émissions. On parle souvent de ce marché entre nous. On sait qu'une partie d'entre vous, vous êtes également attentifs à ce qui sort de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc, on s'est dit que cela allait peut-être vous intéresser, que l'on parle un petit peu de ce marché américain et qu'on l'on vous donne quelques recommandations de lecture. Donc, ce qu'on va vous proposer dans ce numéro Flash, c'est de rapidement vous donner quelques caractéristiques du marché US, puis ensuite on va vous présenter trois titres de ce marché, trois mangas que nous avons sélectionnés sur la base de quelques critères. Alors tout d'abord, on a choisi des mangas qui ne sont pas disponibles sur le marché français, qui n'ont pas été annoncés et dont on pense qu'ils ne sortiront pas dans un futur proche, même si il n'est pas exclu que certains d'entre eux, on peut tout à fait envisager de les voir arriver un jour. Ensuite, on a tenu à sélectionner des titres variés à la fois dans les thématiques, dans les genres, mais aussi dans les périodes historiques auxquelles ces titres se rattachent. Et finalement, on a aussi tenu à avoir des titres qui soient disponibles, facilement trouvables dans le commerce. On ne voulait pas vous frustrer en parlant de pépites du marché US introuvables aujourd'hui, même si ça peut tout à fait faire l'objet d'un autre flash. Si cela vous intéresse, faites-nous savoir. Donc voilà pour le contenu de l'épisode. Sans plus attendre, je vous propose de commencer la discussion. Yo ! Flash ! Flash !
Beaucoup flash !
Alors les gars, je vous propose de commencer la discussion peut-être par donner un petit peu un contexte sur le marché US, comment on pourrait rapidement le caractériser. On va pas faire un long développement non plus sur ce marché, mais pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas du tout le manga tel qu'il est publié aux États-Unis, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant ?
J'ai l'impression qu'aux US, il y a quand même un fonctionnement un peu identique au niveau des maisons d'édition. On a clairement des maisons d'édition de plusieurs catégories. On a un peu notre équivalent des 3-4 gros, comme chez nous, les Pika, les Kana, les Glénat. Ça va être Viz, Dark Horse ou Kodansha Comics, qui ont clairement un peu le monopole, je dirais. Et on va retrouver des maisons, on va dire, à taille plus moyenne, plus modeste, comme les Seven Seas, les Yen Press, les Square Enix Manga, voire du manga indépendant, comme chez nous en fait, avec les Black Hook Press, les New York Review Comics, les Starfoot Books, il y en a plein comme ça, Drawn et Quarterly, hein, je crois que c'est plutôt dans les moyens, ouais. Je crois, eux. Et en fait, on retrouve justement ces catégorisations de maisons et qui vont publier, un peu comme chez nous, les plus grosses maisons vont publier les titres les plus populaires, et plus on va aller vers les petites maisons, et plus on va avoir des titres un peu plus alternatifs, hein, le manga plus alternatif, ou du manga plus vintage, du patrimonial.
Après, il faut préciser que Viz, ça reste quand même un cas assez particulier, puisque les actionnaires majoritaires, c'est directement la Shueisha et Shogakukan, ce qui fait que bon, bah, ils ont tous les titres du Jump qui publient. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'ils n'ont pas du tout la même approche au niveau de la manière de produire les livres, en fait. On est vraiment sur du carré-collé, les formats ne sont pas les mêmes. Si vous avez la chance, parfois, d'aller dans des librairies américaines qui vendent peut-être des mangas, vous verrez que, bah, par exemple, un Jujutsu Kaisen ou même un One Piece, hein, c'est des formats un peu plus moyens, en fait, que les petits formats que nous, on a, qui se rapprochent des formats japonais, en fait.
Mmh. Ouais, c'est des formats qui ressemblent un petit peu au format Les Arts Noirs. C'est le format standard aux États-Unis. Il n'y a pas du tout de jaquette. Ils sont aussi plus chers. Ça, c'est aussi une caractéristique assez importante. Si vous prenez, par exemple, je ne sais pas, un grand succès comme Attaque des Titans, c'est un petit peu le prix standard en France. C'est autour des 7 euros. C'est 7,20 €, je crois. Un tome de Attaque des Titans, ça va être 10,99 $ aux États-Unis sans les taxes. Donc ça, c'est le prix conseillé, mais comme il n'y a pas de politique unique de prix, évidemment, vous allez le trouver moins cher sur certains sites, notamment sur Amazon. C'est aussi une des autres caractéristiques, c'est comme il n'y a pas de prix unique du livre, il y a très peu de boutiques aux États-Unis spécialisées dans le manga, et de manière générale dans le comics, et encore moins dans le manga. Donc c'est parfois des bandes dessinées qui sont assez mal distribuées, notamment pour les petits éditeurs indépendants qui ne passent pas du tout par des circuits de distribution.
C'est-à-dire qu'il faut commander sur leur site, du coup.
C'est ça, en fait. Tout à l'heure, tu t'en citais quelques-uns, Starfleet Books ou Black Hawk Press, c'est vraiment des éditeurs pour lesquels il faut commander sur leur site internet pour avoir ces mangas.
Alors moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que vu qu'on achète américain, on voit certaines différences qu'il y a par rapport au marché français. Et je suis toujours un peu surpris d'entendre les éditeurs français dire oui, on doit suivre les droits et les demandes des éditeurs japonais et on peut pas faire réellement ce qu'on veut dans les éditions qu'on propose parce qu'il y a tel matériel qui nous est donné ou il y a telle demande qui est faite au niveau du format et on doit respecter ça. Et tu vas sur le marché américain et tu te retrouves avec des berserks, que c'est des volumes triples en très grand format.
En cuir, ouais. Couverture
en cuir. Tu te retrouves avec, là ils ont annoncé il n'y a pas longtemps, Don't Call It Mystery de Yumi Tamura, c'est des omnibus de 2 ou 3 volumes, je crois, regroupés en un seul. Et alors pourquoi eux, il n'y a pas de problème, ils peuvent faire des trucs comme As, et nous, on a les éditeurs derrière qui te disent, bah, on est un peu soumis au dictat des éditeurs japonais. Et je pense que c'est vrai, je pense que effectivement, en France, il y a vraiment un truc au niveau des droits avec les japonais où ils ont l'air un peu plus chiants avec nous.
Après, il y a peut-être aussi cette tradition maintenant chez nous d'avoir vraiment un mimétisme par rapport à l'objet au Japon. Mm-hmm. Peut-être que les propres ayants droit ont intégré ça aussi, le fait que l'objet doit ressembler à l'objet original. Peut-être, je sais pas. Hein.
En tout cas, ce que j'avais remarqué par rapport au catalogue, c'est que pendant un moment, j'entendais justement que les US avaient rattrapé le marché français, l'avait dépassé, avant d'être à nouveau redépassé par la France, mais j'avais beaucoup de mal à trouver des mangas en anglais réellement. Les catalogues étaient très diffus, d'où la mauvaise distribution. Je me suis dit, mais je sais pas, en termes de sortie, en tout cas, j'ai quand même l'impression qu'il y en a moins là-bas, de manière générale, même si ça a grandement augmenté ces dernières années. Et au final, j'ai réussi, à force de recherche, de trouver maison d'édition après maison d'édition pour commencer à explorer les catalogues. J'avais un peu de mal à trouver sur des sites en ligne vraiment le gros catalogue manga facilement accessible. Et tous les titres que nous, on connaissait chez nous, je n'avais pas l'impression qu'ils arrivaient là-bas facilement. Et pourtant, à contrario, il y a des choses qui sont arrivées chez eux bien avant que chez nous.
Il y a des choses qui sont arrivées chez eux bien avant que chez nous. Il y a même des choses qui sont arrivés chez eux qui sont jamais arrivés chez nous. Et j'ai un peu cette impression aussi que il y a pas mal de titres. Nous, on commence à avoir quand même un marché de niche assez conséquent avec des titres patrimoniaux, des titres un peu alternatifs, un peu à la marge. Mais moi, quand je regarde le marché américain et je regarde ma propre bibliothèque parce que j'achète de plus en plus de titres, qu'ils soient américains ou espagnols aussi, j'ai l'impression que les titres à la marge qu'ils proposent, c'est vraiment des trucs qui poussent encore plus loin que ce que propose le marché français. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai reçu Boat Life de Tadao Tsuge. On sait que Tadao Tsuge doit arriver chez Cornelius un jour, on l'attend toujours. Ça, c'est des trucs, à chaque fois, ça m'étonne de me dire, bon, bah, ça arrivait bien avant.
Sachant que c'est le 4e livre de Tsuge qui est déjà publié en anglais.
Ah, c'est ça, Tadao Tsuge, il est déjà bien représenté sur le marché américain. Ça fait déjà plusieurs années que Cornelius a les droits de Tadao Tsuge, mais je crois que la raison souvent invoqué par Cornelius, c'est de dire on finit d'abord d'éditer son frère, Yoshiharu Tsuge, et après il passe chez Tadao Tsuge. Mais c'est clair que si tu t'intéresses à Tadao Tsuge, ça fait des années que tu peux le lire en anglais, et comme disait Julien, il y en a 4 maintenant, sauf erreur de volume.
Et puis même du Moto Hagio, par exemple, il y en avait eu avant, et des titres qui sont toujours pas parus chez nous. Alors là, il y a le Clan de Peau qui arrive et qui a été publié en anglais. Et je trouve que aussi ils sont allés plus loin dans l'exploration du manga patrimonial, mais vraiment le manga du début, en fait, du manga. C'est-à-dire que nous, en France, il y a eu quelques mangas de Tezuka qui sont sortis dans les années 40, qui ont été édités en France, mais en vérité, il y a un gros vide en France, et ce gros vide, en fait, aujourd'hui, les US, ils sont allés plus loin. On va le voir avec un titre ce soir, on l'a vu avec Tanktankuro qui a été sorti chez eux. Il y a Black Blizzard de Tatsumi, un des premiers Gekiga sortis à l'époque, et qui est génial en termes d'objets culturels, en fait. Hein. Et il y a pas mal de titres comme ça qui sont sortis, alors que nous, en France, on est très, très frileux sur cette époque-là. Et comme je dis, c'est seulement Tezuka, parce qu'il a l'aura en tant que grand auteur. C'est pour ça que c'est sorti. Mais sinon, je pense qu'on n'aurait quasiment rien avant les années 60. Quoi.
Je tiens à souligner quand même qu'ils ont publié une masterclass qui a déjà été publiée en France, mais dans une édition complètement pourrie. Hein. Je parle de Gundam, The Origin.
Ah oui, c'est vrai. Oui.
Ah oui, pardon, je croyais que tu parlais.
Bah oui, tu sais très bien de quelle édition je parle, qui est basée sur la Kazenban japonaise, qui a un grand format hardcover avec toutes les pages couleurs. Je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs de manga en France qui redemandent que ce titre revienne. On sait que, bon, les droits, quelqu'un les a, hein, mais ça n'a toujours pas été annoncé. Bon, je doute que ce soit sous l'édition que Vertical Graphic publie aux États-Unis.
Après, à mon avis, pour cette petite parenthèse Gundam Origin, l'éditeur qui le sortira en français, s'il ne le sort pas au minimum au format moyen avec toutes les pages couleurs, il est mort. Avec les exigences actuelles du marché français et les gens ont accès à Internet, les gens ont accès à l'information, ils savent très bien que cette édition super belle existe sur le marché américain. Si celle qui sort sur le marché français, elle est moins bien, en tout cas, d'un point de vue des pages couleurs et d'un format de lecture assez agréable qui est le format moyen, je pense que ça va vachement gueuler, quoi.
Tu vas avoir une édition dans la Pika Masterpiece à 16€ avec une page couleur en page de garde et c'est tout.
Moi, j'aimerais bien qu'il y ait l'édition full couleur en numérique. Alors, bon, c'est une parenthèse, hein, mais il y a une édition complètement couleur qui est sortie au Japon, uniquement au Japon et uniquement en numérique, mais 100% couleur qui a l'air folle, en fait.
D'ailleurs, c'est une bonne transition parce que justement, le marché numérique là-bas aux US est bien plus développé que le marché français et on retrouve quasiment tous les titres en numérique et même beaucoup de petits éditeurs indépendants proposent un catalogue numérique, voire des fois ne proposent qu'en numérique leurs livres et pas au format physique.
C'était le cas, non, de quelques Tezuka aux États-Unis.
C'est le cas des Tezuka, c'est le cas de Starfruit.
Bah c'est Starfruit qui avait annoncé une anthologie de Miyako Kojima qui doit sortir chez Black Box, mais il l'a proposé avant en numérique, et là il doit sortir bientôt en volume relié, mais c'est sorti avant en numérique.
Et même si tu auras son catalogue, cet éditeur, il a à peu près une vingtaine de titres, et il a que 5-6 titres en physique. Tout le reste est full numérique. En tout cas, c'est plus facile de trouver justement des titres un peu plus de niche en numérique. C'est pas une généralité, mais c'est plus facile là-bas de les trouver. Mais le prix du numérique est bien plus cher que chez nous en France. Là, chez nous, au final, c'est assez ridicule en prix. On est à des 5, 6, 7 euros. Là-bas, on peut payer des fichiers numériques à 15$, 20$, sans problème.
Maintenant, moi, je trouve ça pas plus mal en soi que le numérique soit un peu plus développé aux États-Unis parce que, et Pedro, je pense que tu vas me reprendre et tu confirmeras parce qu'on en parlait quand t'es allé à New York. Les étals sont beaucoup moins achalandés, il n'y a pas vraiment une culture de la librairie comme peut y avoir en France. Tu vas pas trouver une boutique comme ça super facilement, purement manga, pour acheter tes titres, comme si toi, moi ou Julien, on se dit « bon bah là, je vais aller acheter mes mangas et tu vas trouver ta librairie avec ton libraire que tu connais depuis un moment ». Il n'y a pas cette culture-là aux États-Unis.
Tout à fait. Bah, tu vois, pour reprendre l'exemple de New York, dans une énorme ville comme New York, tu as quelques adresses où tu peux vraiment acheter des mangas avec une sélection, généreuse. Tu vas aller les Midtown Comics, qui sont les 4 ou 5 maintenant, je crois, boutiques historiques de comics à New York, où il va y avoir un petit peu de mangas. Tu vas avoir Forbidden Planet, qui est aussi une boutique de comics où il va y avoir un petit peu de mangas. Il y a The Strand, qui est la plus grande, et la plus vieille ou une des plus vieilles librairies indépendantes de New York où il y aura une petite sélection, mais c'est à chaque fois des petits petits rayons, ça va, ça a rien à voir avec ne serait-ce que les rayons de la Fnac, tu vois, en France par exemple, qui sont extrêmement bien fournis. Et le seul magasin vraiment à New York que tu vas avoir où tu as un très gros choix, c'est Kinokuniya, qui est une chaîne japonaise. Et il y a un Kinokuniya à New York où il va y avoir un étage entier qui est dédié au manga, avec une partie manga US, une partie manga en VO. Mais c'est une grosse boutique, en fait, dans une énorme ville. Alors que si tu prends comparativement New York-Paris, à Paris, tu peux acheter des mangas un peu partout, quoi, quand t'es dans Paris intramuros. Donc, il n'y a clairement pas cette même culture d'aller dans la librairie, de fouiller, de tomber sur des trucs. Tu ne vas pas l'avoir aux États-Unis.
Il y avait une dernière particularité aussi, j'avais remarqué, mais c'est un peu unique là-bas, c'est qu'il y a aussi un spécialiste, un universitaire qui a su se faire remarquer, puisque il y a un peu le monopole de l'essai au niveau des mangas, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il trouve un manga qui lui plaît, il écrit un essai derrière, et il trouve un éditeur pour le faire publier. Et c'est Ryan Holmberg, on en a déjà parlé, puisqu'on avait parlé de F de Imai, qui avait été justement postfacé par ce chercheur universitaire, et qui travaille avec une pléiade d'éditeurs. À chaque fois, il essaie de trouver un nouvel éditeur. Et ça n'existe pas en France. C'est-à-dire qu'on n'a pas quelqu'un qui, finalement, n'a jamais ouvert sa maison d'édition, puisque c'est pas l'envie, peut-être les moyens, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il n'a pas envie de s'embêter avec ça, mais s'associer avec des maisons d'édition pour publier des titres. Et je trouve que mes meilleures découvertes, souvent, sont passées par les mangas qu'il a choisi et qu'il a édité avec un dossier de fin qui sublimait entre guillemets le manga parce que ça rajoutait beaucoup d'explications et de contexte.
Ouais, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis. C'est pas tout à fait la même configuration sur le marché français. On a aussi soit des journalistes, soit des universitaires qui parfois sont appelés à faire.
Parfois même des experts comme Julien et moi qui sont appelés sur Lone Wolf and Cub.
Exactement, sur une des meilleures éditions jamais éditées sur le marché français. Mais c'est un petit peu plus varié, justement, les plumes qui signent ce genre d'essai. Et c'est vrai que, en tout cas, pour ce que les Américains appellent l'alt manga, le manga alternatif, il y a un monopole de Ryan Holmberg, donc historien spécialisé dans le manga alternatif et surtout sur le Gekiga, en fait. Il a fait sa thèse sur Garo.
Il y en a un deuxième qu'on peut oublier parce qu'il fait un peu moins, mais il n'est pas sans mérite aussi. C'est Zach Davidson. C'est lui qui avait fait la traduction et le dossier de Tono Monogatari de Shigeru Mizuki. Il avait tout contextualisé pour qu'on comprenne vraiment de quoi parle l'œuvre, parce que c'est assez compliqué à saisir, c'est vraiment des petites histoires folkloriques très empreintes dans cette région très précise du Japon, et il avait fait tout un dossier, pareil, c'était très très passionnant.
Mais là, on est plus dans la configuration où l'éditeur a dû le contacter pour faire un dossier, c'est pas lui qui a vendu ce projet à l'éditeur, si ?
Alors, c'est en partie lui, mais c'est en partie lui parce que c'est un fan absolu de Mizuki.
Okay.
Oui, c'est vrai. Il avait expliqué qu'il avait mis 10 ans, je crois, un truc comme ça, pour le publier.
Ouais, c'est ça.
Je
ouais.
me rappelle.
Ouais.
Dans tous les cas, ce marché US est très intéressant à explorer parce qu'il nous permet d'avoir accès à des titres qui n'existent pas ou pas encore sur le marché francophone. Et justement, on va passer maintenant à une petite sélection qu'on a fait de 3 titres qu'on vous recommande et qui sont disponibles sur ce marché américain.
Manga
Flash, sexuellement gratifiant.
Le premier titre dont nous aimerions parler est Bad Kid de Inoue Kazuo. Bad Kid, c'est un manga sur le baseball. Il a été pré-publié entre 1947 et 1949 dans le magazine Manga Shonen, donc en pleine occupation du Japon par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Il est sorti en version anglaise sur le marché US en un seul volume en 2021 chez Bubbles Zine, donc un de ses nombreux éditeurs indépendants. Et alors, Bad Kid, ça raconte l'histoire d'un jeune, d'un adolescent qui s'appelle Nagai Bato, qui s'inscrit dans un club de baseball, et on le voit tout simplement s'amuser, en train de faire du baseball, en équipe, parfois aussi avec son père, et c'est un manga à destination des jeunes garçons, avec une ambiance un petit peu feel good. C'est un titre qui est présenté par l'éditeur comme étant l'un des mangas les plus populaires des premières années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. C'est pas à proprement parler le premier manga sur le baseball, on avait déjà avant, notamment dans les années 20, des strips de journaux sur ce sport, mais c'est la première fois qu'on a vraiment des histoires qui sont développées sur plusieurs pages et sur plusieurs chapitres autour d'un même personnage qui fait du baseball.
Alors, je vais me permettre d'approfondir un tout petit peu ce qu'a dit Pedro. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Bad Kid, c'est un cas assez particulier dans le sens où il a survécu à la mort de son auteur. Inoue Kazuo, il est mort en 1949, si je dis pas de bêtises, et le titre, il a quand même continué par le biais d'un autre artiste. Après, là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le livre qu'on a, c'est les premières années de Bad Kid dessinées par l'auteur principal. Le livre qu'on a se constitue de chapitres autoconclusifs avec des petites histoires à chaque fois. Mais ce qui est intéressant, c'est que chacun des chapitres, il s'inscrit dans la continuité du précédent. Ça nous permet d'avoir un semblant de fil rouge, notamment au travers de sa galerie de personnages. On va suivre, en fait, d'un chapitre à l'autre. Et donc, comme Pedro, il a dit, Bad Kid, bah, ça parle de quoi? Ça parle de baseball. Ça, je pense que c'était...
ouais, c'est clair.
Mais, en fait, on va suivre le petit Nagai Bato, qui est passionné de baseball, mais c'est presque un point obsessionnel quand on lit l'œuvre, en fait. Et il rêve vraiment d'intégrer l'équipe de son école. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que de prime abord, il n'a pas nécessairement l'air d'avoir de prédisposition particulière ou de qualité spécifique.
Ah, il a zéro skill, hein.
Ouais, il a zéro skill. Tout le monde se fout un peu de sa gueule. On l'envoie, ça devient le ramasseur de balles. Sauf que bon, bah, il est tellement compétent pour ramasser les balles que là, on va reconnaître ses qualités.
La persévérance, mec. La persévérance.
Et en fait, c'est même si on se moque de lui au départ, cette passion qu'il a, quasi obsessionnelle pour ce sport, va irradier les autres personnes qui l'entourent. Et si on le prend pas au sérieux au tout début, petit à petit, on va voir que les gens autour de lui vont avoir une opinion qui vont se modifier. Je pense par exemple à ses parents en fait qui sont très derrière lui, ils le motivent, ils le poussent à continuer dans sa passion. Il y a tout un chapitre où il veut s'acheter une batte rouge qu'il voit chez un marchand. Tu vois qu'il économise et économise. Ses parents au début ils veulent pas l'aider en lui disant non, il faut que tu te débrouilles pour avoir l'argent qui te manque. Il va réussir à l'acheter mais il va faire une petite bêtise qui fait qu'il va la perdre et là tu vois quand même que ses parents ils veulent bien faire et ils vont lui acheter sa batte. Et en fait ça va aller jusqu'à un match qui est assez important parce que ça va être son premier match de l'école. Même là, tu vois que sa famille est toujours derrière lui parce qu'il y a une séquence qui m'a un peu fait rire où il y a son père pour porter chance à son fils. Il va essayer de forcer la chance autour d'un vieux dicton pour que son fils y soit motivé en pensant que c'est bon, il va pouvoir gagner. Et ce vieux dicton, c'est quoi? C'est en gros, là, si la première personne que tu croises dans la rue un jour de match, c'est un homme, bah, tu vas gagner. Ça va te porter chance. Donc lui, le père, tu le vois, il fait genre, il passe nonchalamment comme si c'était pas prévu qu'il passe devant lui pour qu'il pense gagner. Et justement, ça va tellement le motiver qu'il va réussir à faire un home run. Là, il y a tout le monde qui va changer d'avis sur lui, même le coach qui participait au bizutage. Hein, parce qu'il faut le souligner,
ouais, le coach
se bizute au début. Hein. Hein, il lui colle des papiers dans le dos en lui disant « Ouais, calme-toi, t'es juste un remplaçant, tu vaux pas grand-chose. »
Ouais, il est bien toxique.
ouais, il est bien toxique. Mais en fait, c'est au-delà, je trouve, d'un manga de sport, par certains côtés, c'est un peu un récit initiatique de ce personnage qui se trouve au travers du sport et qui arrive à travers sa motivation et sa passion pour ce sport à se surpasser et à atteindre les objectifs qui se fixent. Et en ce sens, ça rejoint un peu, je trouve quand même, une forme de proto-neketsu, hein, si les gens ils aiment bien ce genre de terme, parce que tu peux voir un peu ces grands fils rouges en filigrane.
Mais ça s'inscrit aussi justement dans une littérature pour enfants de l'époque qu'ils appelaient le yoiko, je sais pas si je le prononce juste, mais ça signifie littéralement les bons garçons, les gentils garçons. Et dans les années 30, la bande dessinée que tu pouvais trouver au Japon pour les jeunes garçons, c'était beaucoup de la bande dessinée yoiko où il s'agissait en fait de dépeindre des personnages qui étaient gentils, qui avaient cette naïveté de l'enfance, qui avaient pas de malveillance chez eux, qu'ils étaient passionnés par quelque chose et les parents étaient là pour aider l'enfant à se développer. Tu vois là, ce que tu disais, les conseils des parents, il y a un côté très aussi pédagogique en fait. Et ça, c'était quelque chose qui rassurait aussi les parents quant aux lectures que pouvaient avoir leurs enfants. On est quand même dans une histoire très différente des histoires de baseball qu'on va avoir par la suite 30 ans plus tard ou 20 ans plus tard avec les mangas de baseball des années 70 et des années 80.
Il faut rappeler que les magazines de publication à l'époque ne publiait pas que du manga. Il y avait beaucoup d'articles sur des éléments scientifiques, sur le sport, sur plein de choses. Et en fait, c'était plus des bouquins à visée presque pédagogique avec du manga. Et le manga n'était qu'une petite partie du bouquin. Et ça, c'est important justement pour rassurer les parents. Enfin, le manga, et c'est pas du jour au lendemain, il y a eu des magazines de prépublication avec 1000 pages dedans, quoi. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais je trouve que même aujourd'hui, il est encore très frais à lire, en fait. Et l'histoire fait une centaine de pages. Et c'est vrai que ça a pas vieilli, je trouve. C'est-à-dire que c'est toujours drôle, c'est très insouciant parce que c'est un petit garçon, au final, c'est même pas un ado, au final, hein. C'est plus un petit garçon de 10-12 ans qui, lui, juste vit ses rêves, il n'y a pas de malice derrière. Et il y a des petits trucs où c'est pas que du baseball, on le suit dans sa vie de tous les jours, on le voit galérer à travailler, on le voit même pas, je vais pas dire s'entraîner, mais rêver à intégrer l'équipe, etc. Et par exemple, quand il a sa batte rouge, moi j'imagine bien les gosses à l'époque se dire « Oh, j'aurais trop envie d'avoir une batte rouge qui leur donnerait la classe pour jouer au baseball, en fait. » Et c'est super touchant, en fait, de suivre ses aventures jusqu'à arriver à faire ce home run pendant ce match, parce que c'est très humain, il y a des petits moments voilà, d'excitation, de peur, enfin on le voit, c'est très expressif dans la narration et dans les expressions des visages, pour l'époque et tout, c'est vraiment très flagrant. Il y a même des mises en case assez audacieuses. Des fois, on le voit avec des tout petits carreaux, enfin des toutes petites cases où il y a toute une série d'actions. Je me dis, enfin voilà, pour l'époque, c'est pas des bandes. Voilà, on voit déjà qu'il y avait des réflexions. Il y avait vraiment un travail pour essayer de dynamiser tout ça. Et le dernier point que j'avais beaucoup aimé dedans, c'est les jeux.
Ah oui, tout à fait.
Plein milieu, il y a des jeux, il y a des rébus, et ça termine d'ailleurs sur un jeu. Et je me suis amusé et j'ai pris plaisir à les faire. Alors que ça reste quand même un manga qui était à la base pour les petits garçons de 10 ans des années 50, quoi. C'est ça qui est assez drôle.
Et justement, tu vois le caractère un peu magazine du truc. Parce que quand t'as ces jeux, on dirait que t'es vraiment en train de feuilleter un magazine où t'as des sortes d'intercalaires entre des chapitres, où t'as une pause et tu peux jouer.
Moi, en tout cas... En lisant Bad Kid, j'ai eu un sentiment de plaisir assez régressif. Ça m'a renvoyé à ma propre enfance, quand je participais à des sports collectifs, quand je participais à...
Quand t'étais en route pour le Kyoshin, c'est ça?
Exactement. En fait, au-delà de ce plaisir régressif, comme dit Julien, je trouve que c'est très frais. C'est surprenamment moderne, en fait, pour un titre qui date quand même de la fin des années 40, de l'après-guerre. En fait, en reformant le livre, je me suis même surpris à me dire que j'aurais pas été contre quelques chapitres, quelques aventures supplémentaires de Nakai Bato pour continuer à le suivre, lui et sa volonté de porter sa passion du baseball. Et en plus, je trouve que sa passion, elle est super communicative, que ce soit pour les gens qui l'entourent, mais pour nous lecteurs en fait aussi, qui lisons l'œuvre. On a envie de le voir réussir et on a envie de le voir aller au bout des objectifs qui s'est fixé. Et en fait, pour moi, le seul point négatif de l'œuvre, c'est que quand je l'ai terminé, j'avais un goût de trop peu. Et je me suis dit, j'aurais bien aimé avoir un petit chapitre ou deux en plus.
Tout à fait. C'est vrai que ça, c'est court, hein, une centaine de planches.
Oui, une centaine de planches, mais qui est accompagnée d'un gros dossier d'au moins peut-être 50 pages, qui reconceptualise tout le baseball de l'époque, l'auteur, l'œuvre. Enfin, c'est un énorme dossier. Hein.
D'ailleurs, pour finir sur une note un peu plus négative liée à ce titre, dans le dossier, justement, on apprend que l'auteur, qui est décédé à l'âge de 34 ans, avait toujours eu une santé fragile, mais le surmenage lié aux dates butoirs, où il devait livrer ses chapitres, à la pression de devoir toujours produire, ça a aggravé sa situation médicale. Et il a souffert d'une première attaque en janvier 49, une rupture d'anévrisme, et puis il en a une seconde en mai qui l'a emporté. Et donc on voit que déjà en 49, le surmenage, c'est un problème dans l'industrie du manga. On a déjà des auteurs qui travaillent beaucoup trop, à un point où c'est pas sain.
En soi, il n'y a rien de surprenant, parce que si tu lis Vie de Mizuki, le troisième volume, bon là, on est plus, je crois, si je dis pas de bêtises, dans la fin des années 50, années 60, tu vois le rythme de travail qu'ils ont.
Ouais, c'est à peine 10 ans plus tard.
Ouais, c'est hallucinant. Bah, d'ailleurs, Kusunoki, l'auteur de Peuple Invisible et La Promesse, qui sont disponibles chez Cornelius, il n'y a que ces deux tomes-là, c'est l'intégralité de ses œuvres, et pareil, il avait une santé très fragile, il a publié, il est mort. Je pense pas que le travail qu'il a abattu a aidé sa santé qui était déjà vacillante.
Voilà en tout cas pour Bad Kid de Inoue Kazuo, que l'on vous recommande chaudement.
Ouais, chaudement, ouais.
Le second titre que nous souhaiterions vous présenter, c'est Talk to My Back de Moura.
Quoi ? La masterclass.
Ah d'accord, excuse-moi. La masterclass Talk to My Back de Murasaki Yamada, ou de la grande Murasaki Yamada.
Donc, Talk to My Back, c'est une anthologie qui était à la base pré-publiée dans le magazine Garo au début des années 80. Murasaki Yamada, qui est née en 1948 et elle est décédée en 2009. Quand on lit Talk to My Back, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'éléments autobiographiques qui parcourent les pages, parce qu'elle-même, c'était une mère célibataire. Elle est considérée comme une des premières autrices à montrer que on pouvait s'exprimer librement au travers du manga alternatif en tant que femme. Et en fait, on se rend compte, en lisant Talk to My Back, qu'au final, la relation principale qui s'est dedans sur la plupart des histoires, c'est pas nécessairement la relation qu'elle va avoir avec son mari qui est un poil toxique sur les bords pour parler avec euphémisme, ou la relation qu'elle a avec ses enfants qu'elle aime énormément, mais en fait c'est plutôt la relation qu'elle a avec elle-même. C'est très introspectif. À chaque instant, en fait, on va se retrouver dans les pensées intimes de Chiharu. Donc Chiharu, c'est ce personnage principal qu'on va suivre tout au long des chapitres. Cette mère qui vit dans ce foyer, qui n'a pas nécessairement de travail au début. Hein, on verra plus tard, en fait, parce que les choses évoluent un petit peu. Elle va trouver un travail à mi-temps. Mais en tout cas, on passe surtout notre temps dans ses pensées les plus intimes, que ce soit ses joies, ses peines, voire même ses propres tourments. Parce que, bon, comme on le sait ou on ne le sait pas, les femmes mariées au Japon, c'est pas nécessairement la joie. Quand on commence un peu à s'intéresser à la formation de la famille nucléaire dans l'histoire du Japon et comment fonctionne une famille nucléaire au Japon, il y a une codification normative des genres. Chacun a un rôle bien prédéfini dans le foyer, il faut s'y conformer. Si on sort du cadre, tout de suite, ça peut être mal perçu, mais mal perçu par le mari, mais, et c'est ça qui est le plus difficile, ça peut être mal perçu aussi par l'entourage, que ce soit le voisinage, la famille ou autre en fait. Tout le monde a intégré ces codes-là et il faut s'y conformer. On voit bien que Chiharu, elle est aux prises avec toutes ces problématiques-là et qu'elle essaye de s'extirper un peu de ce cadre. En tout cas, on remarque qu'elle n'en est pas nécessairement heureuse. Elle se pose des questions et c'est peut-être pas la vie qu'elle voulait au bout du compte. C'est une œuvre très mélancolique, mais c'est pas très surprenant parce que la mélancolie et la femme japonaise, c'est des choses qui sont intimement liées.
Et tout à fait, oui. En fait, le manga, il est, comme tu disais, il est composé de plein de scénettes du quotidien et qui va nous faire découvrir petit à petit en fait la vie de cette mère de famille, hein, qui est clairement en proie au doute de sa situation au sein de cette famille en tant que mère, en tant que femme et en tant que femme mariée. Donc on va suivre justement tous ces questionnements. Et personnellement, ce qui m'a marqué le plus, c'est la manière dont c'est raconté. Comme tu dis, c'est très introspectif et il y a une sensibilité et une émotion assez unique qui se dégage de l'œuvre quand on le lit. Il y a beaucoup de monologues intérieurs, notamment quand elle se retrouve seule, mais c'est très aéré. Le texte qu'il y a est très souvent très percutant. Et j'avais souvent l'impression un petit peu que ce type de sujet est souvent abordé un peu de manière légère quand il y a de l'autobiographie, des choses comme ça. Souvent, c'est sous forme de strip, avec un trait très humoristique, hein, c'est ce qu'on peut voir très souvent, où les déboires du quotidien sont souvent minimisés, parodiés pour rendre ça justement divertissant. Et en fait, on n'a pas du tout ça dans Talk to My Back, le ton est très différent et justement, l'accent est mis sur ces monologues intérieurs. Et d'ailleurs, on sait juste qu'elle est mère de deux enfants, qu'elle est mariée et son seul nom, c'est maman. Il n'y a que quand elle sort de la maison que là, on l'appelle par son nom de famille. Mais on ne connaît même pas son prénom. J'ai pas souvenir en tout cas d'avoir lu son prénom. Et c'est très intéressant parce que justement, toute cette vie en fait qu'elle a choisie, toute son identité propre a disparu. C'est-à-dire qu'elle s'est effacée afin de devenir une femme aimante, afin de devenir une mère aimante, au point qu'elle a elle-même en fait oublié sa propre identité. Et du coup, chaque histoire, en fait, on plonge dans cette sensibilité, dans cette mélancolie, comme tu as indiqué, et le titre, il nous happe vraiment, en fait. Moi, j'étais totalement happé par les histoires, et j'avais envie de savoir comment ça va évoluer, comment, justement, par rapport au changement qu'elle décide de faire, de voir comment se battre face à son entourage, son mari, ou même ses enfants, comme tu dis qu'elle aime, de voir comment elle va sortir de cette cage dorée. Elle décide vraiment de se battre contre cette cage dorée qu'on lui a construite, qu'on lui impose, et elle veut aujourd'hui vivre par ses propres moyens, et retrouver son indépendance en fait par rapport à la société, par rapport à elle-même, parce que là aujourd'hui elle est totalement enfermée dans ce qu'on lui a donné. Et personnellement, cette partie cellule familiale qui moi m'intéressait pas spécialement parce que voilà, moi j'ai pas d'enfant personnellement, c'est pas quelque chose qui me passionne absolument, et bien là on a un vrai combat féministe qui s'engage, et je trouve que c'est un vrai exemple en fait dans ce sens-là. Et c'est pas un manga qui cherche à trop en faire, il est extrêmement juste et touchant dans la manière dont il le fait, et c'est en ça que j'ai clairement adoré l'œuvre, quoi.
Mais c'est aussi parce que je pense que c'est une œuvre qui est lourdement chargée d'un propos sociologique, voire même poétique, parce que on est dans les années 80, il y a encore des résidus de la politique japonaise qui ressort de l'après-guerre, il y a un développement du Japon qui se retrouve dans une course à l'industrialisation, ils veulent renforcer leur position idéologique dans le monde. Une des choses qui en résulte, c'est une politique qui est pronataliste, donc il y a quelque chose qui s'appelle, c'est un concept qui date de la fin des années 1800, mais il a été repris à ce moment-là, c'est le concept de bonne épouse, sage-mère, et à ce moment-là, en fait, les mères, elles étaient considérées comme importantes, mais juste importantes parce qu'elles pouvaient faire des enfants. Et la grossesse à ce moment-là devient un devoir patriotique. Et ça, c'était le cas pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est pas quelque chose qui est parti du jour au lendemain. C'est resté infusé dans les foyers, c'est resté infusé dans l'imaginaire collectif du Japon. Il y a que là, maintenant, de nos jours, où ça commence un peu avec les nouvelles générations, ils arrivent à s'en défaire. Mais si vous voulez, je vous donne un chiffre, ça va vous faire halluciner. Mais par exemple, on sait encore qu'au début des années 2000, il était estimé que les femmes, elles s'occupaient de plus de 90% des tâches à effectuer au sein du domicile conjugal. Et dans les années 80, donc dans les années de la publication de Talk to My Back, une majorité de femmes au foyer elles-mêmes considéraient que c'était leur devoir de se conformer à ce rôle-là.
On l'a pas précisé, ça a été publié entre 81 et 84, hein, Talk to My Back.
Ouais, et un chiffre plus récent et qui est un peu... qui m'a un peu effrayé, enfin en tout cas un pourcentage, c'est qu'il y a eu une étude durant la pandémie de Covid, et durant la pandémie de Covid, il faut savoir qu'il y a moins de 20% des hommes qui ont participé aux tâches domestiques au Japon.
Alors qu'ils étaient à la maison.
Et c'est intéressant en plus de voir cette mentalité, parce que quand le mari, le week-end, où il se fait tout le temps servir, même le soir, serre-moi un verre, etc., qu'elle se rebelle contre ça.
Ah mais ça, c'est lamentable. Il est allongé sous le kotatsu et il lui fait femme Channel 5. Genre, viens me changer la chaîne, quoi.
Ah, c'est atroce, et le pire, c'est au moment où justement elle veut chercher un travail et qu'il lui regarde et à quoi je vais servir moi alors. Sa seule utilité, c'est ramener de l'argent dans sa tête parce qu'il a abandonné toutes ses fonctions parentales au niveau des, voilà, de ses enfants. Et là, tu fais, mais putain, le loser quoi. C'est vraiment, on est au niveau zéro de la responsabilité quoi.
Le titre est vraiment parsemé de petits exemples où tu vois que ce personnage féminin a vraiment intériorisé ce rôle dont tu parlais, Max. Je me souviens, je crois que c'est au début du manga quand à un moment donné elle doit s'absenter de la maison et elle laisse les enfants avec le mari. Tu sens qu'elle a l'air inquiète en fait de laisser son mari seul avec les enfants, alors que bon, voilà. Elle quitte le domicile familial et elle se dit qu'il y a un truc qui cloche, il y a quelque chose qui va pas. Et là, elle se rend compte que mes enfants, où sont-ils? Et elle se rend compte qu'elle n'est pas en train de donner la main à sa petite fille comme d'habitude elle le fait quand elle est dehors. Donc, être dehors, être dans l'espace public, quand t'es une femme, c'est être avec ses enfants. Et là, tout d'un coup, elle se dit, c'est bizarre, je me sens étonnamment libre. Enfin, elle le dit mieux, justement. Elle le dit avec, comme tu disais, Julien, c'est extrêmement bien écrit. Julien, tu parlais d'un style aéré. En fait, c'est doublement aéré. C'est aéré dans le trait. C'est un trait très clair.
Moi, je trouve que c'est
très beau. C'est vraiment très, très bien vieilli, je trouve. Et c'est aussi aéré dans le texte. Donc, il y a une économie des mots, mais c'est très bien écrit. Et c'est quelque chose, je trouve, dont on ne parle pas assez quand on décrit les mangas. C'est la qualité d'écriture, vraiment, soit des dialogues, soit, là, en l'occurrence, de ce discours introspectif. C'est très percutant. Et des choses toutes simples, comme là, la scène que je viens de décrire, où elle se rend compte que, en fait, elle n'a pas besoin de donner la main à ses enfants parce qu'elle est toute seule dans la ville et qu'elle est libre. La manière dont elle le dit, tu te le prends en pleine face. Tu te dis, ah ouais, c'est genre moi en tant que mec, je me suis jamais dit un truc comme ça en fait, tu vois. Et c'est vraiment une œuvre qui est empreinte de féminisme. Et quand on regarde un petit peu la carrière de l'autrice, on comprend à quel point le féminisme est important pour elle parce qu'elle a été femme politique en fait. Elle a été députée, pour utiliser le mot exact, elle a été conseillère à la Chambre des conseillers. La Chambre des conseillers, c'est la chambre haute du Parlement japonais. Donc, c'est à peu près l'équivalent structurel du Sénat pour la France. Et en 89, elle a été élue sénatrice avec une organisation politique qui s'appelle le Shikyu Club, qui est une organisation féministe et écologique. Et donc, tu sens en fait dans l'œuvre, à quel point ce discours politique est important pour elle. Et c'est une manière... Alors, je ne sais pas si c'est une manière dénonciatrice, mais c'est simplement par l'exposition de sa propre expérience de vie, tu te rends compte déjà d'inégalités vraiment énormes qu'il y a entre ces rôles genrés de la mère et du père. Et c'est d'autant plus exceptionnel que c'était rare à l'époque pour Garo d'avoir une autrice qui publie sur ce type de questions-là. Alors on a encore une fois un essai assez éclairant à la fin du volume où en fait on apprend que dans les années 70, Garo ne publiait presque pas d'autrices. Il y avait un peu moins d'une douzaine d'autrices qui ont été publiées dans Garo dans les 10 premières années de l'existence de Garo, alors qu'il y a eu des centaines d'auteurs. Et les deux plus connus, c'est Sorita Kuniko, dont on a une œuvre en France, L'Envol, et Naka Kaiko. Puis après, dans les années 80, il commence à y avoir des autrices, ça commence à changer en fait, c'est à ce moment-là qu'il y a des autrices qui arrivent, qui commencent à publier dans Garo, et elle, c'est vraiment celle qui va se démarquer, c'est un petit peu la pionnière de cette vague d'autrices dès les années 80 qui arrive dans Garo. Alors, au Japon, il y a un groupe qui s'appelle les Trois Filles de Garo, qui sont donc Murasaki Yamada et ses deux assistantes. Yoko Kondo, qui a deux œuvres traduites en français, Une femme et la guerre, Dix nuits, dix rêves, chez Piquier. Et la deuxième assistante, c'est Sugiura Inako, qui a aussi deux œuvres traduites aux éditions Piquier, Miss Okusai et Oreiller de Lac. Donc, c'est trois autrices qui sont importantes pour la revue Garo dans les années 80. Et on n'a pas encore en français Murasaki Yamada. C'est une autrice qui n'a pas été encore publiée en version française.
Sachant que l'autrice d'Oreiller de Lac est une historienne, qui a écrit tous les meurtres et coutumes des courtisanes de l'ère Edo, qui est très documentée.
Tu vois que c'est des intellectuels. Elle a également été chargée d'enseignement. Alors, je ne sais pas exactement la position, mais elle a donné des cours à la faculté de manga de l'université Kyoto Seika. Vous savez, cette université dont la doyenne n'était autre que Takemiya Kaiko. Donc, c'est des femmes hyper balèzes, tu vois, qui sont un petit peu invisibilisées, en tout cas, dans notre conception de l'histoire en France du manga. J'avais trouvé aussi marrant que Murasaki Yamada, elle est proche et pote de Nemoto Takahashi, dont on a parlé dans nos premiers épisodes, le manga du malaise, avec Monsterman Lullaby. Donc, comme quoi, tu vois, il y a deux mondes très différents. Le trash ultime de Nemoto Takahashi et la sensibilité féministe de Murasaki Yamada qui peuvent se rejoindre, en fait, en amitié en tout cas.
En tout cas, c'est vraiment un livre qui est en avance sur son temps, quoi, et qui parle de toutes ces inégalités sociales de l'époque. Voilà, on voit que c'est pas encore ça au Japon, mais il y a des avancées qui se font. Surtout quand on lit des mangas des années 70 où on voit clairement que le seul rôle de la femme était d'arrêter ses études pour se marier dès qu'il y avait un mari. Et chaque fois qu'on lit des mangas comme ça, je suis en mode, mon Dieu, bon, il part de loin, quoi.
Je pense que c'est vraiment un manga important. C'est un manga important à lire pour... Si vous voulez vous targuer d'avoir un petit peu une connaissance de l'histoire du manga, je pense que c'est un manga important à découvrir. J'espère qu'il sortira en français. Je le verrais bien sortir chez Atrabile, tu vois, dans la suite de ce qu'ils ont fait avec Kuniko Tsurita, avec L'Envol. Ce serait chouette qu'ils le traduisent.
Et je pense que c'est aussi un manga important, dans le sens où c'est un manga qui suit, en fait... On suit l'éveil de cette femme qui se rend compte petit à petit que, en fait, non, sa condition ne lui convient pas. Et ça fait écho aussi à beaucoup de parcours de femmes qui sont devenues féministes et qui étaient dans ce type de cadre un peu patriarcal et qui se posaient peut-être même pas la question des problèmes, en fait, qu'il y avait avec ce cadre-là. Et on le voit bien au début de l'œuvre parce que, à deux reprises, elle se traite elle-même d'hystérique.
Ouais, c'est le gros red flag aujourd'hui.
Voilà, c'est un terme qui est très problématique, en tout cas utilisé de cette manière, parce que le nombre de femmes bien sûr insultées d'hystérique, c'est assez conséquent, juste parce que on se retrouve à se battre pour un combat social, et avoir des revendications, et essayer de s'extirper de sa condition. Et on voit qu'au début, elle-même, elle se traite d'hystérique sans même se poser la question, en fait, alors que non, t'es pas hystérique.
Non, t'es juste très lucide.
Et c'est ça qui est génial à lire, hein, c'est toute cette réflexion qu'elle a, et cette évolution au niveau de sa mentalité par rapport à sa situation. Et c'est ça qui est génial, parce que vraiment il y a une vraie introspection sur elle, se dire ben en fait le problème c'est pas moi, quoi, et je veux briser ces chaînes et je vais y aller peu importe de ce que peut dire mon entourage, mon mari, peu importe si mes enfants comprennent pas, je veux faire ce que je veux faire, quoi.
Tu vois que de toute manière petit à petit elle arrive à avoir un semblant d'emprise, et je dis bien semblant parce que y a toujours des choses qui t'enchaîne à ta condition, mais elle arrive à avoir un semblant d'emprise sur ce qu'elle veut faire, parce qu'elle réussit à dégoter un mi-temps. Le chapitre où elle sort du boulot et qu'il pleut et qu'elle décide de marcher sous la pluie pieds nus, et t'as ses deux filles qui lui disent quand elle rentre, mais on a le droit de marcher pieds nus quand il pleut. Et elle lui dit, mais vous faites ce que vous voulez, en fait. Tu sens déjà qu'il y a un changement qui s'opère, et même au niveau de l'éducation qu'elle donne à ses enfants.
Donc, clairement, masterclass.
Ouais, voilà. Talk to my back. Murasaki Yamada, c'était clairement un des meilleurs titres sorti l'année dernière sur le marché américain, et qu'on vous recommande aussi chaudement.
On l'avait nommé. Ouais, il était nommé. Il était nommé au Bunko d'Or.
Tout à fait.
On va partir sur quelque chose de différent. Vous étiez assez nombreux à nous demander une partie 3 des mangas du malaise. On vous a pas fait une partie 3 du malaise, mais on vous a pris, on vous a sélectionné un manga bien dégueulasse. Et ce manga, c'est Super Dimensional Love Gun de Shintaro Kago.
Ouais, qui n'est jamais sorti en France, incroyable.
Jamais sorti.
Et bien voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Kago, hein, puisque on va dire tout le monde n'a pas écouté tous nos épisodes et présentations, etc. Mais en gros, c'est un auteur auquel on a pu parler déjà longuement dans les mangas du malaise, donc je ne vais pas passer 100 ans à le représenter, n'hésitez pas à aller réécouter le podcast. Mais il faut savoir que c'est un auteur qu'on va plus rapprocher du manga alternatif, parce qu'il est connu plutôt pour des œuvres assez dérangeantes. Et en effet, on va souvent le classer dans la catégorie par défaut Eroguro, qui va mêler érotisme et grotesque, un petit peu comme Shumaro. Toutefois, lui, il se voit pas trop dans cette catégorie, malgré le contenu assez hardcore de ses mangas. Et il se voit plus comme un mangaka comique. Comique et scatophile, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'histoires avec du caca dedans. Donc voilà, soyez prévenus. Et en gros, ben voilà, Kago, il est très apprécié pour son inventivité à toujours repousser nos limites et aussi nous faire plaisir avec une sorte d'absurdité morbide dans ses histoires. Les histoires et les situations sont toujours improbables, c'est mêlé à de la découpe chirurgicale des corps au point de nous faire rire par moments, tout comme nous hérisser les poils et nous faire frissonner de dégoût, tellement voilà, que le trait est précis par moment. Et en France, on a déjà eu pas mal de titres, et avec ce titre-là, on n'est pas déçu.
Alors clairement, c'est pas une recommandation pour tout le monde, c'est un manga qui est très malaisant, il y a des scènes de nudité, il y a des scènes, comme tu le disais Julien, de corps déchiquetés, c'est un humour très noir, très satirique, qui va pas convenir à toutes les lectrices et tous les lecteurs, donc vous êtes prévenus. Pour moi, je trouve que c'est un livre intéressant, parce qu'il n'y a pas tout qui fonctionne, en fait. Moi, je trouve qu'il n'y a pas tout qui marche. Il y a 15 histoires courtes dans cette anthologie qui sont écrites parfois à différentes périodes et qui sont pensées, dessinées pour des magazines de prépublication assez différents. Ça va de magazines de prépublication plutôt érotiques à d'autres qui sont plutôt expérimentaux. Et en fait, on voit quand même pas mal de différences. Et moi, il y a certaines histoires qui m'ont fait marrer. Il y en a certaines que j'ai trouvées très originales. Le point fort ou les deux points forts qu'on met souvent en avant quand on définit Kago, c'est à la fois sa capacité à trouver des concepts. C'est très conceptuel. Et c'est pour ça que c'est des histoires courtes. C'est juste le temps de développer une idée, un concept. Il est très fort pour ça. La deuxième chose sur laquelle il est très fort, c'est d'illustrer visuellement ce concept avec un dessin très efficace. Et des fois, ça marche bien. Il y a une histoire, par exemple, qui s'appelle India Station, où toute la narration est basée sur des cercles, un petit peu comme... spirale de Junji Ito. Donc on va avoir à la fois des bulles de dialogue sous forme de cercle qui sont au centre de chacune des cases, et le dessin, le décor, l'action va aussi être incrusté de différents cercles. Et j'aime bien quand Kago fait ça, en fait. Il expérimente des choses comme ça, originales. Mais parfois, il y a des choses qui fonctionnent aussi un petit peu moins bien, et je trouve que là où il est moins fort, c'est dans les dialogues ou les structures narratives, ou parfois t'as ce bon concept mais tu sens qu'il aurait pu l'exécuter d'une manière différente. Et je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire où en fait il fait un lien entre les moustiques et
oui,
le prépuce, donc du pénis du sexe masculin, et où il explique que vous avez remarqué, en fait, on se prend souvent des moustiques dans l'œil, et que les paupières nous servent à nous protéger d'avoir des corps étrangers dans les yeux, notamment des moustiques. Et il explique que le prépuce du pénis, en fait, remplit à peu près la même fonction. Et après, il part dans un délire sur comment est-ce qu'on pourrait utiliser le prépuce et le pénis
partout.
Et en fait, il invente des trucs, quoi, des utilisations un peu originales. Et c'est à la fois marrant, puis en même temps, tu vois, je trouvais que c'était pas super bien exécuté aussi. Tu vois, je trouvais que ça pouvait être un petit peu mieux décrit, un peu mieux fait. Et la fin de l'histoire, tu sens que, une fois qu'il a fait ce parallèle marrant, comment il termine son histoire et comment il arrive à conclure un récit, c'est pas toujours hyper convaincant. Mais quand tu as comme ça une anthologie d'histoires aussi différentes, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir justement cette différence-là et aussi la subjectivité, parce que moi j'ai trouvé que ça fonctionnait moins bien, mais si ça se trouve, un autre lecteur va me dire c'est celle-ci ma préférée, et une autre que j'aurais adorée, il va me dire qu'elle est moins bien, quoi. Donc ça, c'est aussi tout à fait possible. Mais par rapport à des choses qui seraient disponibles sur le marché français, je trouve que Super Dimension of Love Gun est intéressant en ce sens que c'est un volume assez court, de 15 histoires courtes, et ça te montre un petit peu son savoir-faire, sans trop non plus s'éterniser comme pourrait peut-être l'être Dementia 21, qui est sorti récemment, je crois, en français, que je trouve trop long, en fait. Il y a trop d'histoires, et à un moment, tu as peut-être une overdose de ces petites scénettes.
Et puis, dans Dementia 21, il n'y a pas une histoire avec des enfants mort-nés qui se collectent au-dessus de leur tête. Et ils font un concours de nanas qui ont le plus d'enfants mort-nés. T'en as certains, ça fait des fœtus en forme de Bouddha, Amida Bouddha. Ça n'a aucun sens.
Ah, et puis les histoires, elles sont affreuses, parce que celles où, justement, il y a un piercing, et chaque fois qu'elles font un piercing, il y a un fil qui sort. Et quand tu tires le fil de ton corps, il se passe un truc sur ton corps, des trucs qui s'arrachent, des trucs qui machin, et ça part dans des délires dégueulasses, c'est génial.
Non mais moi, ouais, je sais pas, il m'a pas autant choqué que les carnets de massacre noirs. Le volume noir des carnets de massacre est choquant, mais il est tellement drôle que ça compense. Mais celui-là, il a certaines histoires qui m'ont dégoûté. Oui. Genre l'espèce de groupe fanatique de grattage retrouve à se gratter et s'arracher toute la peau dans une pièce, et ça se termine en arène de grattage et plus personne n'a de peau sur lui, c'est immonde.
Donc c'est un groupe de gens qui ont des problèmes dermatologiques et ils se réunissent pour se gratter entre eux. Et il y a une espèce de... Ça ressemble un petit peu à Crash de Ballard, le roman où t'as un chauffeur, un conducteur de voiture qui trouve un plaisir sexuel à faire des accidents avec d'autres voitures.
Ah, comme l'adaptation en film aussi de Cronenberg, non ? Ouais.
Exactement, tout à fait. C'est tout à fait comme le film de Cronenberg. Et là, en fait, t'as des personnes qui ont des problèmes dermatologiques qui s'excitent mutuellement, parce que tu sens qu'ils prennent un plaisir, en fait, à se gratter entre eux. Et c'est dégueulasse la manière dont c'est représenté, évidemment. On l'a dit tout à l'heure, il dessine très bien. Donc, il va dessiner très bien les choses qui sont crados.
Moi, je trouve que c'est un très bon livre. Même le chapitre où elle collectionne tous les morceaux du corps dans des petits sachets et tout, qu'on le voit en train de se découper.
Ouais. Ah oui, alors ça, moi, c'est une de mes préférées, en fait. Donc, c'est une lycéenne, c'est ça ? Ultra stalkeuse. Et elle est complètement fanatique d'un camarade de classe. Et elle part du principe que à chaque fois que ce mec touche quelque chose, elle doit posséder ce quelque chose. Et donc, si le mec, au bout d'un moment, je crois qu'il va toucher une meuf et il va devoir lui arracher les mains à la meuf, la peau. Elle va à un moment donné aussi découper un morceau de la table dans la salle de classe parce qu'il a touché la table. Et elle collectionne tout ça, et son père aussi, en fait. Elle est dans une famille de collectionneurs un peu maboule, quoi.
Ah, c'est très drôle. Ça faisait longtemps que j'avais pas relu du Kago, et là, quand je lisais, j'étais en mode ah, ouais, c'est affreux, et ça fait longtemps que j'avais pas lu, eu cette sensation.
Elle est très Kago, celle-ci, c'est un bon exemple, parce que c'est deg tout en étant marrant, en fait.
C'est absurde.
Ouais, c'est absurde.
Une autre qui est très Kago, j'ai trouvé, avec son style un peu expérimental et de jouer avec nos attentes, avec le couple là, qui couche ensemble, et au final, c'est des hauts de corps, et les bas des corps, c'est des nains qui sont imbriqués dans des gens.
Ah, ça fait tout le monde penser à Fraction ou Anamorphosis, là, c'est typiquement ce genre d'histoire, quoi.
Mais tu dis, c'est celle où c'est une sorte, c'est un peu comme des Hokai, c'est
non,
ça
non, non, y a... non, non, c'est celle-là.
Voilà, c'est celle-là.
Ah oui, ah d'accord, ok.
Parce que oui, il y a aussi celle où t'as des gens qui couchent ensemble et quand ils jouissent, il y a leur tête qui se déboîte et qui part avec tous leurs organes.
Et qu'elle le nettoie sous la douche après et tout. Enfin, parce qu'elle s'est chiée dessus.
Oui, c'est ça. Dedans. Elle nettoie ses organes sous la douche.
Et alors, ce qui est très marrant, c'est que après, celle qui a, quand elle a un orgasme, sa tête se disloque, elle envoie ses organes. Et apparemment, c'est une variante, je sais plus si c'est coréenne ou d'un autre pays asiatique.
C'est une variante japonaise. Enfin, c'est un yokai, mais il y a la même version. C'est en Thaïlande.
C'est ça, en fait. Comme ça. Parce que je crois que la version japonaise, c'est juste la tête qui s'étire, en fait. Tu vois, t'as la tête qui s'étire et ça te fait un long coup. Et au bout d'un moment, dans l'histoire, le personnage principal, donc cette femme, elle trouve un partenaire sexuel qui a le même problème qu'elle. À chaque fois qu'il jouit, il a cette tête qui s'allonge et ça lui fait un long coup. Et lui, quand il voit que la meuf, elle a pas le long cou, mais qu'elle a des organes qui sortent, il est dégoûté, en fait. Il lui dit, ouais, mais toi, c'est dégueulasse. Moi, c'est pas dégueulasse, en fait, d'avoir un coup de 3 mètres.
Ah, mais je trouve que c'est un excellent Kago. C'est typiquement lui qui aurait dû être plutôt publié en France plutôt que les autres.
Vous oubliez quand même l'histoire des suceuses de bites qui qui se retrouvent avec des bouches en forme de cube et de...
En fait, c'est un parallèle avec, avec les MST, en fait. Il y a une femme qui soupçonne son mari de la tromper, et elle en discute avec ce que je crois être un pote, et il lui dit « Ah, mais t'inquiète, en fait, c'est très facile de savoir si une femme a couché avec ton mari, c'est qu'en fait, à chaque fois que ton mari se fait prodiguer une fellation par une personne, cette personne-là a la bouche avec la même forme que le sexe de la personne. Parce que chaque personne a une forme très particulière, un carré, un triangle, voilà. Et en fait, elle sort dans la rue, puis elle commence à découvrir des personnes qui ont la bouche avec la forme du pénis de son mari.
Même un chien.
Un chien, des mecs. En fait, puis elle dit, ouais, mais... Il y a son pote qui dit, ouais, mais ton mec, il couche avec tout le monde, en fait, il s'en bat les steaks. Et en fait, c'est très absurde, quoi.
Mais effectivement, pour en revenir à ce que disait Julien, c'est dommage qu'on n'ait pas ce cagot-là et qu'on en ait eu d'autres à la place. Par exemple, je pense que, honnêtement, moi je trouve que c'est pas nécessaire d'avoir traduit la princesse du château sans fin.
Oui.
J'aurais préféré avoir Dimensional Love Gun que la princesse du château sans fin.
Moi aussi.
Mais après, voilà, c'est moi.
Il est clairement, pour moi, classé dans les tops des cagots à côté des Carlin Massacre ou de la grande invasion mongole, mais version trash, en fait. C'est du très bon cagot, version trash. Donc voilà, ça, quand je l'ai lu, je me suis régalé, et le relire, je me suis éclaté à le relire.
Voilà, donc si vous êtes en manque de manga dégueulasse, ça fait une bonne petite roco. Super Dimensional Love Gun de Shintaro Kago.
Donc là, on a terminé de présenter les trois titres qu'on a retenus. Ces trois titres qui nous ont beaucoup plu, mais gardez en tête, hein, si c'est un genre de flash qui vous intéresse. On avait déjà fait une liste en fait, de sélection avec différents titres sortis aux US qu'on n'a pas sélectionné, mais par exemple, là, on a parlé de cela, mais on aurait pu parler de Kaiji aussi, qui est indisponible en France, qui sort chez Denpa, le même éditeur d'ailleurs que Super Dimensional Love Gun. On aurait pu parler de l'édition de Gundam, puisque ça fait des années qu'il n'est plus disponible. Donc, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on ne ferme pas la porte à ce genre d'épisodes courts pour proposer... On a des listes.
Dites-nous si ça vous plaît, en plus des épisodes traditionnels, d'avoir des épisodes comme ça où on vous fait quelques recours, on vous en refera d'autres. Voilà, donc on arrive au bout de ce flash sur le marché US avec ces trois recommandations. On espère qu'on vous aura diverti, donné envie de faire quelques lectures. On vous remercie d'être resté avec nous et on vous dit à tout bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.
Bye bye.
Au revoir.
Banco.
Banco.
Banco. Banco.
Bunko, Bunko.